À l'aube, la tempête se calma. Guccio, épuisé, regarda autour de lui. Les caisses, les voiles, les prélards, les ancres et les cordages s'entassaient dans un effrayant désordre. Au fond du bateau, sous le plancher disjoint, une nappe d'eau clapotait. La trappe qui donnait accès au pont s'ouvrit et une voix rude cria « Hola, signor! Avez-vous bien dormi ?»«
Dormi ?» répondit Guccio sur un ton plein de rancune. « Je pourrais aussi bien être mort !»
On lui lança une échelle de corde et on l'aida à se hisser sur le pont. Un grand souffle froid l'enveloppa et le fit frissonner sous ses vêtements mouillés.
« Vous ne pouviez donc pas m'avertir qu'on aurait une tempête ?»
dit Guccio au patron du bâtiment.
« Ah, mon gentilhomme, il est vrai que nous avons eu une mauvaise nuit, mais vous sembliez si pressé. Et puis pour nous, vous savez, c'est chose courante, » répondit le patron. « Maintenant, nous sommes près de la côte. »
C'était un vieil homme robuste, au poil gris. Il regardait Guccio de manière un peu goguenarde. Tendant le bras vers une ligne blanchâtre qui sortait de la brume, il ajouta
« C'est Douvres, là-bas !»
Guccio soupira en serrant contre lui son manteau.
« Dans combien de temps arriverons-nous ? »
L'autre haussa les épaules et répondit
« 2 ou 3 heures, pas plus, car le vent souffle du levant. »
Sur le pont, 3 matelots étaient étendus, recrues de fatigue. Un autre, accroché au timon du gouvernail, mordait dans un morceau de viande salée sans quitter les yeux la proue du navire et la côte d'Angleterre. Guccio s'assit auprès du vieux marin, à l'abri d'une petite cloison de planches qui coupait le vent, et malgré le jour, le froid et la houle, il tomba endormi. Lorsqu'il se réveilla, le port de Douvres étalait devant lui son bassin rectangulaire et ses rangées de maisons basses, aux murs grossiers, aux toits chargés de pierres. À droite de la passe se détachait la demeure du shérif, gardée par des hommes en armes. Le quai, encombré de marchandises empilées sous des hauts vents, grouillait d'une foule bruyante. La brise charriait les odeurs de poissons, de goudron et de bois pourri. Des pêcheurs circulaient, traînant leurs filets et portant leurs lourdes rames sur l'épaule. Des enfants tiraient sur le pavé des sacs plus gros qu'eux. Le bateau, voile amenée, entra dans le bassin. La jeunesse a vite fait de récupérer à la fois ses forces et ses illusions. Les dangers surmontés ne servent qu'à lui donner davantage confiance en elle-même et à la pousser vers d'autres entreprises. Il avait suffi à Guccio d'un sommeil de 2 heures pour oublier ses frayeurs de la nuit. Il n'était pas loin de s'attribuer tout le mérite d'avoir dominé la tempête. Il y voyait un signe de sa bonne étoile. Debout sur le pont, dans une pose de conquérant, la main serrée sur un cordage, il regardait avec une curiosité passionnée venir à lui le royaume d'Isabelle. Le message de Robert d'Artois, cousu dans son vêtement et la bague d'argent enfermée dans sa bougette, lui semblait les gages d'un grand avenir. Il allait entrer dans l'intimité du pouvoir, connaître des rois et des reines, savoir le contenu des traités les plus secrets. Avec ivresse, il devançait le temps, il se voyait déjà un prestigieux ambassadeur, confident écouter les puissants de la terre, devant qui les plus hauts personnages s'inclinaient. Il participerait au conseil des princes. N'avait-il pas l'exemple de ses compatriotes Biccio et Musiato Guardi, les 2 fameux financiers toscans que les Français appelaient Biche et Mouche, et qui avaient été pendant plus de 10 ans les trésoriers, les ambassadeurs, les familiers de l'austère Philippe le Bel? Il ferait mieux qu'eux. Et un jour, on raconterait l'histoire de l'illustre Guccio Baglioni, débutant dans la vie en manquant de renverser le roi de France au coin d'une rue. La rumeur du port lui parvenait comme déjà une acclamation. Le vieux marin jeta une planche entre le bateau et le quai. Guccio paya le prix de son passage et quitta la mer pour la terre ferme. Ne transportant pas de marchandises, il n'eut point à passer par les traites, c'est-à-dire les douanes. Au premier gamin qu'il rencontra, il demanda d'être conduit chez le lombard du lieu. Les banquiers et marchands italiens de cette époque possédaient leur propre organisation de courrier et de fret. Formés en compagnie, qui portait le nom de leur fondateur, ils avaient des comptoirs dans toutes les villes principales et dans les ports. Ces comptoirs étaient à la fois une succursale de banque, un bureau de poste privé et une agence de voyage. Le lombard de Douvres appartenait à la compagnie Albizzi. Il fut heureux de recevoir le neveu du chef de la compagnie Tolomei et le traita du mieux qu'il put. Chez lui, Guccio trouva à se laver. Ses vêtements furent séchés et repassés, il changea son or français contre de l'or anglais, et prit un fort repas tandis qu'on lui apprêtait un cheval.